France Inter.
Aujourd'hui, l'invention des déchets urbains, racontée par
Sabine Barle, professeure d'urbanisme à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Tous les jours, après avoir passé la journée à France Inter, je quitte la maison de la radio et enfourche mon vélo. Pour rentrer chez moi, je traverse l'avenue de Versailles et j'emprunte une toute petite rue en forme de L inversée qui me permet d'accéder à la piste cyclable de la voie Georges Pompidou. Cette rue, qui présente la particularité de n'avoir qu'un unique numéro, le 2, c'est la rue Eugène Poubelle. Elle rend hommage au préfet Poubelle qui a révolutionné Paris en 1883 en imposant aux habitants de la capitale l'utilisation de boîtes pour y déposer leurs déchets. Une décision historique qui ne fut pas d'ailleurs sans heurts. Fils d'une famille bourgeoise de Caen, Eugène Poubelle est adepte des thèses hygiénistes et veut faire la guerre aux ordures. À l'époque, le monde entier se moque de Paris et de sa saleté. Les habitants jettent toutes leurs ordures à la rue, la nourriture s'accumule et pourrit dans une odeur indescriptible. Les Parisiens, habitués à l'anarchie dans la gestion de leurs ordures, accueillent donc l'arrêté de Poubelle avec une vive hostilité. Et le préfet fait l'objet d'une campagne de dénigrement dans la presse. Le 16 janvier 1884, au lendemain de la mise en œuvre de son arrêté, le Figaro dénonce l'arrêté de Poubelle parlant de boîte poubelle. Le nom entre immédiatement dans le langage courant. Le préfet devient la cible favorite des caricaturistes qui le qualifient de Néron de l'ordure ou encore de Robespierre des côtes de melon. Le décret impose trois types de boîtes par habitant, une pour les matières putrescibles, une pour les papiers et chiffons, une autre pour les matériaux plus durs comme le verre ou les coquilles d'huîtres. Un tri donc avant la lettre, mais perçu par beaucoup comme une mesure autoritaire et intrusive. Les rumeurs courent sur les risques d'invasion de rats exacerbés par une presse sceptique qui prédit un chaos urbain. Et en dépit des critiques et des moqueries, Eugène Poubelle persévère, convaincu de l'importance de sa réforme pour l'hygiène et la santé publique. Petit à petit, l'ordre établi par ces boîtes prend racine, transformant donc radicalement la gestion des déchets à Paris. La résistance initiale s'estompe et laisse place à une acceptation de ces boîtes désormais indissociables de la vie parisienne. Eugène Poubelle finit donc par inscrire son nom dans l'histoire, même si cette minuscule rue du 16e arrondissement est bien modeste au regard de son idée révolutionnaire. Cet épisode sur l'invention de la poubelle s'inscrit dans une grande saga des déchets urbains et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Sabine Barle.
Bonjour.
C'est amusant de voir l'hostilité parisienne donc en 1883 envers ce préfet Poubelle. D'ailleurs, je disais une boîte par habitant, non, c'est une boîte par bâtiment quand même à l'époque. Qu'est-ce que ça dit de la saleté? Que c'est quelque chose de très subjectif et culturel au fond?
Alors, il faut voir que quand Poubelle prend son arrêté, on vient d'avoir plusieurs étés très chauds à Paris et avec des puanteurs absolument
innommables,
qui ont un peu précipité la décision parce que les amoncellements d'ordures étaient considérés comme faisant partie du problème avec tout ce qui sortait des fosses d'aisance, donc urine et excréments. Après, bien sûr, la question de la saleté, c'est une question effectivement extrêmement relative. Mais si Poubelle a été critiquée, ça n'était pas tellement autour de l'argument de salubrité, mais plutôt parce que il imposait le tri, alors que ce tri était fait à l'époque, mais il était fait par les chiffonniers et non pas par les habitants. Il imposait des horaires très stricts pour la sortie des poubelles, une chose qui pour nous est devenue tout à fait commune. Il imposait aussi une des conditions de travail beaucoup plus complexes pour les chiffonniers, puisque ces chiffonniers qui fouillaient l'état d'ordure allaient devoir fouiller dans des poubelles dans lesquelles les matières qu'ils voulaient récupérer risquaient d'être altérées par les mélanges. Donc tous ces arguments s'accumulent Et finalement, renvoie assez peu à la question de la salubrité, d'autant plus que, assez rapidement, ça devient une question politique, et plus politique que sanitaire.
On va y revenir, hein, évidemment, parce que le 19e, c'est vraiment un moment très très particulier dans cette relation aux déchets. Vous qui avez publié, Sabine Barle, en 2005, un ouvrage intitulé « L'invention des déchets urbains », on l'a repris pour le titre de cette émission. En quoi c'est une invention, d'ailleurs? Qu'est-ce que vous entendez en employant ce terme?
J'entends que, si j'ai réalisé ce travail qui commence à être bien vieux.
20 ans,
oui. 20 ans, oui. C'est parce que, justement, quand je lisais des textes portant sur le 19e siècle et la question d'hygiène, de salubrité urbaine, je ne voyais jamais le mot déchet employé. Alors, on parlait d'ordures, d'immondices, de boue, mais jamais de déchet. Alors
que le mot existait.
Il existait. Le déchet, c'est un mot qui date du 15e siècle, si mes souvenirs sont bons, et qui vient du verbe choir, donc tomber, et un déchet, en fait, c'est une chute, en particulier dans les productions artisanales ou industrielles. Donc, c'est ce qui reste quand on a produit, on a coupé quelque chose, et puis il y a quelque chose qui tombe par terre, c'est la chute. Donc, le mot existait bel et bien, mais n'était pas appliqué en milieu urbain. Et donc, et il ne le sera que plus tard, d'où l'invention des déchets. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir pourquoi. Et effectivement, si ce mot n'est pas employé, c'est tout simplement parce qu'au 19e siècle, toutes ces matières qui sont contenues alors dans les poubelles à partir des années 1880 et dans des tas d'ordures précédemment, ne sont pas considérées comme des chutes, ni comme des choses inutiles, mais
au contraire,
ont une très grande utilité.
Il y a une science des déchets, ça existe ça ou pas?
Alors, il y a une science des déchets qui s'appelle la rudologie, qui a été inventée, elle aussi, si je puis dire, hein, par Jean Gouillet, qui a fait sa thèse, alors je crois que c'est qu'elle a été, elle est sortie
1972,
en 1972, c'est ça.
Un géographe.
Un géographe au Mans, qui a proposé d'étudier les déchets, non pas comme d'un point de vue matériel ou de techniques ou de sciences appliquées, mais plutôt comme les témoins d'une société, et des sociétés urbaines et des transformations des sociétés.
Et alors, il réhabilite au fond la question du déchet, il leur donne une valeur particulière, un statut? Comment il prend le sujet, en fait, ce monsieur Gouillet?
Alors, la question... Pour lui, la question n'était pas de dire que les déchets avaient une valeur ou pas de valeur, mais plutôt de dire que étudier les déchets, c'était une très bonne façon de comprendre les sociétés.
Oui.
Et cette proposition de rudologie, qui est tombée un petit peu en désuétude par la suite, elle revient sur le devant de la scène parce qu'on a de plus en plus de chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent aux déchets, à nouveau comme des marqueurs de la société, comme des marqueurs des inégalités sociales, des inégalités spatiale, que ce soit à l'échelle urbaine ou à l'échelle internationale, comme des marqueurs aussi de l'insoutenabilité des sociétés actuelles.
On y reviendra évidemment au cours de cette émission. Encore un petit point d'histoire avec vous, Sabine Barle, autour du 19e siècle, qui fait figure de tournant concernant la salubrité publique, justement.
Alors, effectivement... En fait, dès le XVIIIe siècle, la salubrité, c'est une question qui se pose depuis très longtemps dans les villes, mais elle va prendre une tournure particulière avec le XVIIIe siècle, avec l'essor d'une médecine qu'on appelle néo-hippocratique, c'est-à-dire qui fait référence en permanence au traité des airs, des eaux et des lieux d'Hippocrate, et qui dit que finalement, si l'on est malade, voire si l'on meurt de maladie, c'est à cause des conditions environnementales. Et donc, pour les médecins, c'est l'environnement qui fait la santé ou la maladie, essentiellement, et ils considèrent que les villes sont des lieux absolument corrompus, invivables, parce que les amoncellements, justement, de matières organiques en putréfaction provoquent de très nombreuses maladies et provoquent ce qu'on appelle aujourd'hui, mais qui était identifié à l'époque, une surmortalité urbaine, qui fait qu'on meurt plus en ville qu'à la campagne. Les taux de mortalité urbains sont très très important, hein. Et puis que le solde naturel est négatif, c'est-à-dire que les décès sont plus importants que les naissances.
Donc ça arrive à ce moment où on reconfigure la médecine, on la reconsidère, avec aussi la révolution pasteurienne qui arrive aussi là-dessus.
Donc, pour les néo-hippocratiques, cette question de l'environnement, elle est fondamentale, mais c'est au 19e siècle, progressivement, les médecins vont s'éloigner de la question environnementale. D'abord parce que Claude Bernard va mettre en avant l'importance de s'intéresser au milieu intérieur, et non plus au milieu extérieur. Et puis, avec les découvertes pasteuriennes, alors effectivement, on va mieux identifier les causes des maladies et pouvoir certifier, par exemple, que les micro-organismes sont les responsables des maladies. Mais on va aussi distinguer ce qui relève de la contagion de ce qui relève de l'environnement. Et donc, la préoccupation environnementale va progressivement se déliter jusqu'à... Enfin, alors, disparaître, c'est peut-être un peu excessif, hein, mais en tout cas, s'atténuer fortement jusqu'à la fin du 20e, début du 21e siècle, où là, on recommence à parler de médecine environnementale.
Vous faisiez allusion tout à l'heure aux chiffonniers, Sabine Barle. On va écouter l'extrait de ce film de 1955, Les chiffonniers d'Emmaüs, de Robert Darren.
On était venu vous dire... Il y aura un moyen pour gagner de l'argent. Si vous, vous êtes d'accord, je pourrais prendre mon ancien métier. Ça ferait des sous. J'étais biffin.
Biffin ?
Un chiffonnier, quoi.
Chiffonnier, fouiller dans les poubelles ? Tu crois que ça peut rapporter, ça ?
Pour les poubelles, c'est chasse gardée. On pourrait exploiter une décharge. On s'y mettrait la moitié, les vieux et le gosse. Puis les autres, ils continueront à construire.
On va essayer.
1955, donc, dans ce film de Robert Darren. C'est vrai que ce métier, il faut en parler, parce qu'ils sont le symbole d'une époque où le réemploi, finalement, le recyclage dominait, on peut dire ça comme ça ?
Tout à fait. En fait, on peut dire que le 19e siècle, c'est le siècle du recyclage, du réemploi, de la valorisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne recyclait ni ne valorisait auparavant, mais on va voir s'intensifier toutes ces pratiques.
Pour remettre en circulation, au fond, tous ces matériaux, ces flux
Oui, parce que en fait, il y a deux choses qui expliquent cette transformation. La première, c'est le besoin d'engrais. Fin 18e, début 19e siècle, il y a de très nombreux scientifiques qui mettent le doigt sur la pénurie d'engrais. Il n'y a pas assez d'engrais, pas assez de fertilisants, et on risque de ne pas avoir assez de nourriture, en particulier pour les urbains qui ne produisent pas leur nourriture et qui sont de plus en plus nombreux. Et donc, on va commencer à dire que, finalement, ce qu'il faut, c'est que les villes rendent à la campagne ce qu'elles lui ont pris. Donc, les villes prennent à la campagne de la nourriture, elles doivent lui rendre des engrais. Et donc, ces engrais, c'est quoi ? C'est les boues qu'on collecte dans les rues, parce qu'elles contiennent du crottin de cheval, de la bouse de vache, des résidus alimentaires, etc. Mais ce sont aussi les urines et les excréments. Donc ça, c'est le volet agricole qui fait que des pratiques qui existaient auparavant de fabrication d'engrais urbains, voire humains, comme on les appelait à l'époque, vont prendre une ampleur très importante, vont être l'objet de l'intérêt des grandes banques. Hein, il ne s'agit pas d'affaires anecdotiques. Il y a beaucoup d'argent. Il y a une économie très puissante de ces matières. Et puis, d'un autre côté, c'est tout simplement la révolution industrielle qui va... demander des matières premières. Et alors, le plus bel exemple qui est bien connu, hein, c'est justement celui du chiffon, puisque pour faire du papier, il faut des chiffons que l'on fait pourrir, que l'on déchiquette, etc. Et ce qui va se passer, c'est que fin 18e siècle va être mise au point la première machine à papier. Et l'intérêt de la machine à papier, c'est qu'elle augmente la capacité de production, mais si on augmente la capacité de production, il faut plus de chiffons.
Oui.
Et donc, on va voir se concentrer la recherche de chiffons dans les villes, parce que c'est là que le gisement est le plus important.
D'où ce nom de chiffonnier, alors ?
D'où ce nom de chiffonnier. Alors, les chiffonniers existent préalablement, mais jusqu'au 19e siècle, souvent, le chiffonnier a plusieurs métiers, parce qu'il ne vit pas que du chiffonnage. Alors qu'au 19e siècle, ce qu'on va voir, c'est que son activité va devenir suffisamment rentable pour l'occuper à temps plein. Alors, je ne veux pas dire que les chiffonniers sont très riches, hein, c'est plutôt ceux qui leur achètent les chiffons qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils vont en faire un métier à part entière.
Les recycleurs, donc, de l'époque, qu'on appelait aussi les gadouilleurs, hein, je crois, les chiffonniers...
Alors, le gadouilleur, c'est un chiffonnier particulier.
Oui, c'est celui
qui va dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les décharges. C'est ce à quoi faisait référence
l'extrait du film qu'on vient d'entendre.
Ouais.
On verra dans un instant comment cette histoire des déchets va prendre un nouveau tournant dans l'entre-deux-guerres. Et puis bien sûr, on évoquera les déchets aujourd'hui, notre rapport à cette question. Et puis vous répondrez aux messages et aux témoignages qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il faudrait d'abord savoir ce que c'est que les ordures ménagères. Et le mot d'ordure que l'on emploie prête souvent à confusion. En réalité, les ordures ménagères ne sont pas du tout ce que l'on pense. Les ordures ménagères, c'est en réalité ce qui était chez nous et qui en sort. Il n'y a donc pas là quelque chose de répugnant. Et cela, il faut y faire très attention, car cela explique pourquoi les ordures ménagères ont été pendant longtemps traitées non pas directement à la main, mais à la pioche, à la pelle, et sans provoquer pour cela aucune maladie.
Une archive de 1950 de l'INA avec un ingénieur en chef de la ville de Paris. Sabine Barle, vous qui êtes urbaniste prospectiviste, on parle avec vous des déchets dans nos sociétés urbaines. Puisqu'on est en 1950, les relations aux déchets ont bien changé depuis l'époque des chiffonniers ?
Ah oui, elles ont beaucoup changé, puisque en fait toute cette industrie et cette économie du recyclage, elle est remise en question à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors d'une part parce que on peut parler d'une révolution des engrais, on va découvrir les phosphates fossiles, la potasse d'Alsace et le procédé Haber-Bosch qui permet d'utiliser l'azote de l'air pour fabriquer des engrais azotés. Donc tout ça, ça va concurrencer les engrais urbains. Et puis, pour ce qui concerne les productions industrielles, ce qu'on va constater, c'est que les matières, ce qu'on pourrait appeler les matières premières urbaines qui avaient permis l'industrialisation, vont en devenir le facteur limitant. Ça, c'est particulièrement vrai pour le papier dont je parlais tout à l'heure, puisque le gisement de chiffon, il est limité, oui. Et donc il bloque la croissance de la production au bout d'un certain moment. Et donc, les industriels du papier vont chercher un succès d'année du chiffon, qui sera la paille, puis le bois, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, beaucoup d'autres matières premières vont arriver sur le marché, en particulier issues de la carbochimie et de la pétrochimie, qui vont remplacer des matières premières qu'on trouvait en ville.
Ça veut dire qu'on ne cherche plus à réutiliser forcément ?
Alors, les villes, dans un premier temps, jusqu'à l'entre-deux-guerres, vont chercher à maintenir la valorisation ou à trouver de nouveaux débouchés ou de nouvelles formes de valorisation, par exemple l'incinération. En France, l'incinération qui existe en Angleterre depuis les années 1860, elle a d'abord été complètement refusée parce que les spécialistes disaient « mais c'est un gâchis ». Total de transformer de la matière en fumée, jusqu'à ce qu'on découvre que l'on pouvait tirer de l'énergie de cette incinération. Et là, l'incinération va avoir bien meilleure presse. Oui. Et donc, on va se mettre à incinérer dans plusieurs villes de France, dont Paris, donc au début du XXe siècle.
À quel moment on commence, donc début du XXe siècle ?
Ouais,
il y a un premier incinérateur historique.
Donc le premier incinérateur, je ne sais plus si c'est Ivry ou Saint-Ouen, là j'ai un petit trou.
Ouais.
Et, et puis après, on va généraliser la technique. Alors, à Paris, il y a un enjeu très important avec l'incinération, c'est la réduction des volumes. Parce que, bien sûr, on est dans une très grande ville qui produit beaucoup d'ordures. Réduire le volume est un enjeu fondamental, puisqu'à la fin, on a à peu près 20% en volume de ce qu'on avait au début.
A priori, c'est Ivry hein, pour le
Ivry.
Premier incinérateur.
Voilà.
Mais apparemment, il y avait déjà au 19e siècle une usine à Javel, près de Paris, pour déjà pratiquer l'incinération. Est-ce que ça, c'est possible aussitôt, 1893 ?
Alors, je ne la connais pas, j'avoue, mais pourquoi pas ? Je sais pas.
En tout cas, en Angleterre, vous dites que ça a été...
Oui, en Angleterre, on appelait l'incinérateur le British Destructor.
Ouais, c'est ça.
Donc
on détruit, quoi. C'est,
voilà,
c'est bien ça,
c'est
le mot-clé.
L'idée, c'est de détruire.
Hein.
Et c'est ça qui va être important, c'est que le tournant de l'entre-deux-guerres, c'est qu'on va véritablement se mettre à parler de déchets. Le mot va apparaître dans les textes techniques, les textes relatifs à la salubrité, à l'hygiène, au nettoiement.
Ouais.
Et on va voir aussi un remplacement de vocabulaire. Dans les textes, on avait souvent des titres du type « enlèvement des ordures ménagères », « ordures ménagères », « enlèvement » et « valorisation »,« récupération
». Mmh.
Et l'expression suivante, ça va être « enlèvement et destruction ». Élimination des déchets. Et donc là, c'est vraiment, en termes de vocabulaire, c'est très très frappant, ça arrive très vite. Et ce que l'on dit maintenant, enfin à partir de ce moment-là, c'est que finalement, la gestion des déchets est une charge inéluctable et non plus une source de profit.
Les hygiénistes, ils approuvent justement l'incinération ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent ?
Il y a quand même un assez grand consensus sur l'intérêt de l'incinération, parce que beaucoup d'hygiénistes et d'ingénieurs disent que l'intérêt, c'est que comme c'est sans danger, disent-ils, hein, on peut installer ces usines en ville.
Ouais.
Et on parle même d'usines de ville, et ça, c'est aussi un enjeu de limiter les coûts de transport. Donc on a l'intérêt de la réduction du volume, l'intérêt de la production d'énergie, et enfin celui de l'inscription urbaine.
Et parallèlement, il y a quand même une autre histoire, c'est celle des décharges publiques. Parce qu'il n'y a pas que des incinérateurs dans la gestion des déchets. Hein.
Non, ce qui va se généraliser encore plus que les incinérateurs, ce sont les décharges, ce qu'on appelle parfois les décharges contrôlées. Et là, c'est un peu la même histoire que pour l'incinération. Les décharges apparaissent en Angleterre vers les années 1860 aussi.
Oui.
Et sont en France complètement refusées, en tout cas sur le papier. Et puis, finalement, dans l'entre-deux-guerres, la décharge apparaît comme le moyen le moins coûteux de se débarrasser des ordures, puisqu'il suffit de les amener quelque part et de les mettre
c'est
en tas.
C'est ça. Mais à quel prix ?
Alors, à quel prix ? À prix de la dégradation des milieux, des eaux, et puis des contaminations, etc., etc. Et puis de l'abandon de la valorisation. En fait, la décharge, c'est vraiment le symbole de la naissance des déchets au sens de l'abandon, puisque dans la définition du déchet, il existe cette notion d'abandon. Un déchet, c'est une chose que quelqu'un veut abandonner.
Est-ce que dans ces deux systèmes, décharge donc et incinération, le déchet n'est plus jamais une source de bénéfice, hein, ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même une économie qui se fait ?
Alors, sur la décharge, il n'y a aucun bénéfice. On voit vraiment le système qui s'inverse complètement. C'est-à-dire que jusque-là, le déchet rapportait de l'argent à ceux qui s'en occupaient, en particulier, par exemple, les chiffonniers, ou bien les fabricants d'engrais. Et cet argent, ils le gagnaient en vendant les produits. Ce qui va se passer à partir de l'entre-deux-guerres, c'est que ceux qui vont payer pour les déchets, et d'ailleurs les eaux usées, ce sont les citadins, tout simplement. On va désormais payer pour se débarrasser, pour être débarrassé de ces choses-là. Alors, pour ce qui concerne l'incinération, on peut dire qu'il y a une petite source de revenus qui viendrait de l'énergie produite et puis de la valorisation des mâchefers, puisque ce qui reste à la fin, qu'on appelle le mâchefer,
on l'utilise. Ouais.
Alors, c'est des matières qu'on utilise beaucoup dans la construction et dans les travaux publics. On peut faire même du béton de mâchefer, c'est pas de la très bonne qualité. Mais donc c'est un débouché qui existe, mais les recettes sont très faibles par rapport aux dépenses.
Ouais. Et les incinérateurs, ils sont nourris par nos déchets, donc ils ont besoin de déchets aussi en permanence. C'est peut-être aussi la limite du système,
c'est
non ?
C'est parfaitement la limite du système, et c'est la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Pour qu'il y ait de production d'énergie, qu'il y ait production de déchets.
Ce qui n'incite pas forcément à en produire moins, justement, des déchets. On va en parler dans un instant avec vous, Sabine Barle, et puis vous répondrez au message qui arrive sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
La Terre est un vaisseau spatial très limité où la place pour éliminer les ordures, les polluants, est également limitée. Si bien que tout d'un coup, on commence à sentir dans l'opinion publique américaine une réalisation du fait que vraiment de penser à cette expansion sans arrêt qui a été la philosophie du monde technologique jusqu'à nos temps, que cette philosophie n'est plus valable. Et je crois que ça, c'est la grande découverte de nos temps.
René Dubos, biologiste, écologue, en 1970, dans une archive de l'ORTF, Sabine Barle, vous qui êtes notre invitée pour parler de cette question des déchets. Certains qualifient notre espèce d'homo détritus, lorsque d'autres parlent de notre époque comme du poubellocène, l'ère du déchet. Est-ce que vous validez ou pas ces expressions ?
Oui, je pense que c'est assez juste, ouais, et je trouve que l'archive est très belle.
Ouais.
Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup évolué depuis
ce
constat.
Exactement.
Oui, poubellocène, c'est pas mal. Enfin, poubelle, après, c'est pas tellement la poubelle le problème, c'est plutôt la,
le déchet,
ouais. Le déchet qui est produit. Donc, ouais, c'est pas mal.
Combien un Français, en moyenne, produit de déchets par jour? On est à combien, à peu près?
1,3, 1,5 kilos par personne et par jour,
ouais.
Qui sortent des logements. Mais en fait, ça n'est rien par rapport à la quantité de déchets qui est produite à l'échelle d'une agglomération ou d'un pays.
C'est ça. Puisque il n'y a pas que les particuliers qui produisent des déchets, loin de là. Hein.
Il y a aussi les activités économiques.
Je crois que c'est le BTP, d'ailleurs, le premier secteur.
Et le secteur principal, c'est le BTP qui écrase tout le reste.
Ouais. À l'échelle mondiale, est-ce qu'on peut dire que la quantité de déchets va en augmentant ou quand même, vu quelques mesures qui sont prises, on pourrait imaginer qu'il y ait une certaine baisse? Il y avait un rapport de 2018 de la Banque mondiale qui montrait une augmentation de 70% des déchets estimés à 2050, plus de 3 milliards de tonnes. Alors, donc, a priori, les choses ne vont pas dans le bon sens.
Oui, toutes les projections qui sont faites vont dans le sens d'une augmentation des déchets. Et quand on regarde les courbes sur les, disons, 20 à 30 dernières années, on n'est que dans de l'augmentation. Alors après, on peut avoir l'illusion d'une diminution parce que, effectivement, à l'échelle, par exemple, d'un pays comme la France, la production de déchets ménagers diminue un peu par habitant.
Oui.
Mais ailleurs, la production de déchets augmente, et ce qui augmente beaucoup, ce sont tous les déchets qui sont liés à la production des objets que nous consommons. Et ces déchets, ils sont produits généralement dans d'autres pays, et finalement, nous avons en quelque sorte externalisé notre production de déchets de la même façon que nous avons externalisé la production tout court.
Sabine Barle, vous êtes spécialiste dans l'étude du métabolisme urbain. Qu'est-ce que ça signifie ce terme? C'est quoi le métabolisme d'une métropole alors?
Alors, le métabolisme urbain, ça désigne en fait les échanges d'énergie et de matière qui existent entre une ville, par exemple, et les autres territoires, et puis aussi, bien sûr, la biosphère.
Alors, par exemple?
Eh bien, alors, c'est tout ce qui peut... Alors, l'énergie...
Les aliments, l'eau,
alors, les
tout
aliments,
ça.
L'eau, les matériaux de construction, les produits que nous consommons. Et puis, donc, quand on étudie le métabolisme, on essaye de regarder tout ce qui rentre, et puis on regarde ce que ça devient.
Mmh.
Alors, quand on regarde le métabolisme, par exemple, de l'Île-de-France, on voit que la moitié, en gros, se transforme en ce qu'on appelle rejet vers la nature, et essentiellement en émissions atmosphériques, puisque une des principales activités des humains, c'est la combustion, en fait, du fait de l'utilisation des combustibles
fossiles.
Les deux
tiers, vous dites, hein ?
Pour l'Île-de-France, c'est bien les deux tiers, oui, qui sont en émissions atmosphériques. Ensuite, l'autre partie, ce sont les déchets solides. Alors, quand on parle des déchets solides, on parle de ceux qui sont enfouis. On ne parle pas de ce qui est valorisé éventuellement, etc. Mmh. Et puis ensuite, il y a des quantités plus faibles, mais qui sont très préoccupantes. C'est tout ce qui est rejeté dans l'eau. Alors, l'eau, je ne parle pas de l'eau elle-même, hein, je parle de ce qu'on met dans l'eau, qui, en tonnage, représente peu de choses, mais en effet, sur les milieux aquatiques, et donc sur nous, à la fin, est très important.
Vous pensez à quoi, en particulier ?
Déjà, toutes les matières organiques qui sont issues de notre métabolisme, pour le coup, biologique, mais aussi tous les métaux lourds,
les microplastiques,
les microplastiques, toutes les matières dont on parle en ce moment, et qui, dont on... Alors, on découvre, non, on ne découvre pas, dont on met la dangerosité sur la table, mais pour lesquelles on a des informations souvent depuis longtemps.
Question des PFAS, par exemple. Alors, les acteurs privés, ils gèrent aujourd'hui tous ces flux dans les villes. Ils sont des acteurs en tout cas majeurs.
Alors, en fait, on a une cohabitation de systèmes qui sont en régie, donc dans lesquels ce sont les collectivités qui elles-mêmes prennent en charge les déchets et leur gestion. Et puis, dans d'autres cas, on est dans des systèmes de concession de services publics avec une très forte place des acteurs privés, donc des gros acteurs type Veolia, Suez, etc. Ouais. etc. Qui souvent aussi gèrent les installations de traitement.
Est-ce qu'il y a des marchés parallèles dans la gestion des déchets, comme on peut voir d'ailleurs dans certains pays ou pas ?
Alors, il y a des marchés parallèles, par exemple, sur les chantiers pour tout ce qui est métaux. Quand il y a des chantiers de démolition, les métaux sont mis de côté. parce qu'ils ont une, ça a de la valeur, ça se vend bien. Et ça, ce sont ça passe par des filières qui sont plus ou moins opaques.
Ouais. Sabine Barle, on voit dans les slogans des entreprises et des collectivités d'ailleurs, hein, qui financent le recyclage, la mise en avant de la réduction, du réemploi. Mais est-ce qu'elles ont vraiment intérêt à réduire la quantité de déchets avec des filières qui vivent précisément de cette croissance, hein?
Ouais, c'est tout le paradoxe de l'économie circulaire aujourd'hui, hein. C'est qu'on essaye de créer des filières qui permettent donc le recyclage ou la valorisation des déchets, mais qui du coup créent des dépendances encore plus grandes aux déchets.
C'est ça. Donc la vraie question, c'est pas ça, c'est celle de la production en fait à la source de ces déchets.
La question, c'est celle de la
surconsommation.
Voilà, ça serait de consommer moins de matière en entrée pour avoir moins de matière à rejeter en sortie, voire alors pas du tout, ça c'est impossible, mais en tout cas avoir une très forte décroissance de
Parce
ces quantités.
On a des injonctions très contradictoires autour de ce sujet, réduire tout en consommant.
Tout à fait. Et d'ailleurs, les collectivités peuvent se trouver dans des situations complexes, hein, puisque si elles sont dépendantes de réseaux de chauffage urbain approvisionnés par l'incinération des ordures, tout en ayant une politique de prévention visant à réduire les volumes, on risque de se trouver dans des situations où les collectivités sont obligées d'importer des déchets pour pouvoir nourrir en quelque sorte leurs incinérateurs, ce qui devient complètement absurde.
La valorisation des matières qui n'est jamais neutre, hein, vous le rappelez aussi, ça nécessite de l'énergie, des matières. Hein, quand on pense vouloir bien faire, en tout cas, il y a toujours un impact derrière et il faut le prendre en compte, évidemment.
Tout à fait.
Je
pense que la question fondamentale, en fait, c'est celle de ce qu'on appelle parfois la dématérialisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille
sur le numérique.
Non, c'est pas du tout ça. C'est juste consommer moins de matière, qui est un enjeu fondamental.
Allez, on passe aux questions parce qu'elles sont nombreuses. Une question de Lise sur l'incinération. Est-elle toxique ou non, demande-t-elle. En d'autres mots, est-ce que seule l'incinération du plastique est toxique?
Alors, l'incinération, de fait, provoque des émissions atmosphériques qui peuvent contenir des matières tout à fait toxiques. Alors, théoriquement, il y a un traitement des fumées avant leur émission dans l'atmosphère, qui provoque d'ailleurs la création de nouveaux déchets qu'on appelle les réfiums, les résidus d'incinération des ordures ménagères. Il n'y a pas de neutralité de l'incinération. Bien sûr, l'essentiel, c'est de la vapeur d'eau, mais il y a des composés chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé ou pour les écosystèmes.
Quelques questions sur notre ami Eugène Poubelle. Gilles, combien de temps a-t-il fallu après l'introduction de la poubelle pour que les premiers gains de salubrité apparaissent?
Alors, en fait, les gains de salubrité, on les a déjà observés avant. Puisque les taux de mortalité urbains, et en particulier à Paris, décroissent tout au long du 19e siècle. Et en fait, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Il y a toute la politique de salubrité elle-même, donc nettoiement urbain. Pas seulement poubelle, mais surtout le nettoiement, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Et puis aussi, il y a tout un tas de choses qui se passent dans le domaine de la médecine, notamment autour de la mortalité infantile, qui nous éloignent pas mal de la question des poubelles. Donc, la poubelle est une contribution probablement à la diminution de la mortalité et de la morbidité, mais n'est pas un facteur, le facteur déterminant.
Daniel demande, lors de cet arrêté poubelle, Paris a été présenté comme la risée à cause de sa saleté. Est-ce à dire que d'autres villes en France ou ailleurs étaient plus propres à ce moment-là?
Alors, on a quand même beaucoup de récits qui décrivent la saleté des villes en général.
Oui.
Est-ce que certaines villes étaient plus propres? Peut-être. Alors, souvent, on cite Chambéry, par exemple, qui a eu très tôt un système d'égout. Mais les descriptions convergent quand même sur l'insalubrité généralisée.
Témoignage d'Olivier qui nous dit que le quartier Montorgueil, après s'être nommé la Montagne Orgueilleuse, était au Moyen-Âge l'emplacement du plus grand dépôt d'ordures de la capitale. Notre-Dame de Bonne-Nouvelle a été construite pour signifier la fin de ce dépôt. Vous connaissiez cette histoire ?
Effectivement, alors je ne connaissais pas cette histoire, mais au Moyen-Âge et même sous l'Ancien Régime, on a des dépôts d'ordures qui sont créés et qui vont se transformer en sorte de collines d'ordures sur lesquelles parfois on met des moulins avant. ce qui permet de mieux capter le vent. Ça n'est pas surprenant. Enfin, ce témoignage montre bien cette situation.
Dernier message d'Hervé. Dans mon enfance, dans les années 50, j'ai connu une catégorie de chiffonniers qui passaient dans les rues en criant « peau de lapin » à destination des citadins qui, avant de manger leur civet de lapin, achetaient le lapin vivant au marché, le tuaient eux-mêmes. Que faisait-on de ces peaux de lapin ?
Alors, les peaux de lapin, on devait récupérer les poils de lapin, probablement, pour faire des chapeaux, ou d'autres éléments d'habillement, de feutre, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est un témoignage que j'ai déjà entendu, pas pour Paris, mais pour la Bretagne. Donc, c'est effectivement une chose qu'on continuait à récupérer.
Merci beaucoup Sabine Barle. Je renvoie sur votre ouvrage L'invention des déchets urbains en France, 1790-1970, aux éditions Champvallon, c'était en 2005. Merci à Emma Bouvier qui a préparé ce dossier. Merci d'être venue au micro de La Terre au Carré.
Merci.